Sophie avait du mal à croire qu'elle, une petite orpheline qui n'avait pas grande importance en ce monde, se trouvait véritablement assise, en cet instant même, à bonne distance au-dessus du sol, sur le rebord de la fenêtre de la chambre de la reine d'Angleterre, alors que la reine elle-même était endormie juste derrière ce rideau, à 5 mètres de là. C'était en soi une idée absurde. Personne n'avait jamais fait quelque chose de semblable. C'était même effrayant. Qu'arriverait-il si le rêve ne marchait pas ? Personne, et encore moins la reine elle-même, ne croirait un mot de son histoire. Et il se pouvait bien qu'il ne fût jamais arrivé à quiconque au monde de découvrir, en s'éveillant, une petite fille assise derrière les rideaux de sa chambre. La reine allait avoir un choc. Qui n'en aurait pas eu à sa place ? Avec toute la patience dont peut faire preuve une petite fille qui attend quelque chose d'important, Sophie resta assise sans bouger sur le rebord de la fenêtre. Combien de temps allait encore durer l'attente, se demandait-elle. À quelle heure les reines se réveillent-elles ? Des bruits étouffés et la rumeur d'une agitation lointaine lui parvenaient depuis le cœur même du palais. Puis, tout à coup, elle entendit une voix qui venait de derrière les rideaux. C'était la voix, quelque peu voilée, de quelqu'un qui parle pendant son sommeil.
« Oh non ! Que quelqu'un les arrête ! Ne les laissez pas faire ! Je ne peux pas supporter cela ! Oh, s'il vous plaît, arrêtez-les ! C'est horrible ! Oh, c'est épouvantable ! Non ! Non ! Non !»«
Elle est en train de faire le rêve !» se dit Sophie. « Ce doit être vraiment effrayant ! J'en suis désolée pour elle, mais il le fallait !» Il y eut ensuite quelques gémissements suivis d'un long silence. Sophie attendit. Puis, à l'intérieur de la pièce, derrière les rideaux, Sophie entendit des coups frappés à une porte. C'était un bruit qui ne pouvait tromper. Elle entendit également qu'on tournait la poignée, puis les pas de quelqu'un qui entrait dans la chambre.
« Bonjour, Majesté, » dit une voix de femme.
C'était la voix d'une personne âgée. Il y eut à nouveau un silence, puis un léger cliquetis de porcelaine et d'argent qui s'entrechoquaient.
« Voulez-vous votre plateau dans votre lit, madame, ou préférez-vous que je le pose sur la table ?»«
Oh, Marie, il vient de m'arriver quelque chose d'affreux !»
Sophie reconnut immédiatement la voix qui venait de prononcer ces mots. Elle l'avait souvent entendue à la radio et à la télévision, en particulier le jour de Noël. C'était une voix très célèbre.
« Quoi donc, madame ?»
« Je viens de faire un rêve épouvantable. C'était un horrible cauchemar. »«
J'en suis désolée, madame, mais ne vous en faites pas. Vous êtes réveillée à présent et tout cela va s'en aller. Ce n'était qu'un rêve, madame. »«
Savez-vous ce que j'ai rêvé, Marie ? J'ai rêvé que des petits garçons et des petites filles étaient enlevés de leur lit dans des pensionnats par d'effroyables géants qui les dévoraient. Les géants passaient leurs bras par les fenêtres des dortoirs et les attrapaient entre leurs doigts. » Un groupe d'élèves d'une école de filles et un autre d'une école de garçons, c'était si vivant. Oh Marie, cela paraissait si réel.
Il y eut un silence. Sophie attendit. Elle se sentait tout agitée. Mais pourquoi donc ce silence ? Pourquoi est-ce que l'autre, la servante, ne disait rien ?
Qu'est-ce qu'il y a donc, Marie ?
Demanda la voix célèbre. Le silence revint.
Marie ! Vous êtes pâle comme un linge. Vous ne vous sentez pas bien ?
Vous n'avez pas encore lu les journaux, n'est-ce pas, madame ?
Non, que disent-ils ?
Sophie entendit le froissement d'un journal.
Cela ressemble au rêve que vous avez fait cette nuit, madame.
Allons, ne dites pas de sottises, Marie. Où est-ce ?
À la première page, madame. Cela fait le gros titre.
Miséricorde ! Oh, 18 élèves disparaissent mystérieusement de leur lit à l'école de filles de Rodine. Et 14 garçons disparaissent, dit-on. On a retrouvé des os sous les fenêtres du dortoir.
Il y eut ensuite une pause, entrecoupée d'exclamations poussées par la voix célèbre et provoquée de toute évidence par la lecture de l'article.
Mais c'est terrifiant. C'est absolument effroyable. Des os sous les fenêtres. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Mon Dieu, les malheureux enfants !
Mais madame, ne voyez-vous pas ?
Quoi donc, Marie ?
Ces enfants, ils ont été enlevés, presque exactement comme dans votre rêve, madame.
Mais pas par des géants, Marie.
Non, madame, mais l'histoire des filles et des garçons qui disparaissent de leur dortoir. C'est cela que vous avez rêvé très clairement. Et voilà maintenant que c'est véritablement arrivé. C'est pour cela que j'étais si troublée, madame.
Je me sens un peu troublée, moi aussi, Marie.
Cela me fait peur, madame, quand de telles choses arrivent. Vraiment peur.
Je vous comprends, Marie.
Sophie aurait voulu voir ce qui se passait dans la chambre, mais elle n'osait pas toucher au rideau.
J'ai vraiment rêvé de ces enfants, Marie. C'était clair comme du cristal.
Je m'en doute, madame.
Et je ne sais pas ce que les géants viennent faire là-dedans. C'était une sottise.
Voulez-vous que j'ouvre les rideaux, madame? Cela nous fera du bien. Il fait un temps magnifique.
Faites, s'il vous plaît.
Les rideaux s'ouvrirent alors dans un bruissement. La servante poussa un cri. Ah! Sophie resta pétrifiée sur le rebord de la fenêtre. La reine, assise dans son lit, un exemplaire du Times sur les genoux, jeta un bref coup d'œil vers la fenêtre. Ce fut à son tour d'être pétrifiée. Elle ne poussa aucun cri. À l'inverse de la servante, les reines ont trop de flegme pour cela. Le teint pâle, elle se contenta de fixer de ses yeux grands ouverts la petite fille perchée sur l'appui de sa fenêtre avec une chemise de nuit pour tout vêtement. Sophie était incapable de faire un geste. Et curieusement, la reine aussi semblait incapable de bouger. On se serait attendu à ce qu'elle parût surprise, comme vous et moi l'aurions été en découvrant à notre réveil une petite fille assise sur le rebord de la fenêtre. Mais la reine n'avait pas l'air étonnée. Elle semblait plutôt effrayée. La servante, une femme entre deux âges coiffée d'un drôle de bonnet, fut la première à reprendre ses esprits. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle avec colère. Sophie lança à la reine un regard suppliant. La reine n'avait pas cessé de la fixer. On pourrait même dire qu'elle la contemplait avec stupéfaction. Elle avait la bouche légèrement entrouverte, ses yeux s'étaient arrondis comme des soucoupes et son célèbre visage, plutôt aimable, exprimait l'incrédulité. « Dites-moi un peu, jeune personne, comment diable avez-vous fait pour vous introduire dans cette pièce ?» s'écria la servante d'un ton furieux.
« C'est à ne pas croire. C'est vraiment à ne pas croire. »«
Je vais immédiatement la faire sortir d'ici, madame, » dit la servante.
« Non, non, Marie, ne faites pas cela !»
La reine avait parlé avec une telle brusquerie que la servante en fut interloquée. Elle se tourna vers la souveraine et la regarda avec étonnement. Que lui arrivait-il donc ? On eût dit qu'elle était en état de choc. « Vous vous sentez bien, madame ?» demanda la servante. Lorsque la reine parla à nouveau, ce fut dans un étrange murmure étranglé.
« Dites-moi, Marie, dites-moi franchement, y a-t-il véritablement une petite fille assise sur le rebord de ma fenêtre ou suis-je toujours en train de rêver ?»«
Elle est bien assise là, madame. » C'est clair comme le jour, mais Dieu sait comment elle a pu arriver jusqu'ici. Et croyez-moi, cette fois, votre majesté ne rêve pas.
Mais c'est exactement ce que j'ai rêvé, justement. J'ai aussi rêvé cela, qu'une petite fille assise sur le rebord de ma fenêtre et simplement vêtue d'une chemise de nuit allait me parler.
La servante, les mains crispées sur le plastron blanc et amidonnée de son uniforme, regardait sa maîtresse avec une expression tout à fait incrédule. La situation la dépassait. Elle était perdue. Jamais on ne l'avait préparée à faire face à ce genre de folie.
« Es-tu bien réelle ?»
demanda la reine à Sophie.
« Oui, majesté, » murmura la fillette.
« Et comment t'appelles-tu ? »
« Sophie, majesté. »
« Et comment es-tu arrivée sur le rebord de ma fenêtre ? » Non, ne réponds pas, attends un instant. J'ai également rêvé cela. J'ai rêvé que c'était un géant qui t'avait mise là.
C'est vrai, majesté, répondit Sophie. La servante poussa un gémissement angoissé et se couvrit le visage de ses mains.
Alors, Marie, un peu de sang-froid,
dit sèchement la reine, puis s'adressant de nouveau à Sophie.
Ce n'est pas sérieux, cette histoire de géant, n'est-ce pas?
Oh, si, majesté. Il est dehors, dans le jardin, en ce moment même.
Vraiment ?
Dit la reine. La totale absurdité de cette réponse l'aida à retrouver son calme.
Alors, comme ça il est dans le jardin, n'est-ce pas ?
Demanda-t-elle en esquissant un sourire. Mais c'est un bon géant, Majesté, assura Sophie. Il ne faut pas en avoir peur.
Je suis ravie de l'apprendre.
C'est mon meilleur ami, Majesté.
C'est tout à fait charmant.
C'est un géant vraiment adorable, Majesté.
Je n'en doute pas. Mais pourquoi ce géant et toi êtes-vous venu me voir ?
Je crois que ça aussi vous l'avez rêvé, Majesté, assura Sophie avec calme. Cette remarque prit la reine de court. Elle fit également disparaître son sourire. Cela aussi, elle l'avait rêvé, en effet. Elle se souvenait à présent qu'à la fin de son rêve, il lui avait été dit qu'une petite fille et un bon gros géant viendraient lui expliquer comment faire pour retrouver les 9 monstrueux géants mangeurs d'hommes. Mais attention, pensa la reine, restons calmes, car on ne doit pas se trouver loin des frontières de la folie. Vous avez rêvé cela, n'est-ce pas, Majesté ? Insista Sophie. La servante avait renoncé à comprendre désormais. Elle se contentait de rester là, l'air complètement ahuri.
En effet, maintenant que tu en parles, je me souviens de l'avoir rêvé. Mais comment sais-tu cela ?
Oh, c'est une longue histoire, Majesté. Voulez-vous que j'appelle le bon gros géant ? La reine regarda la fillette, qui lui rendit son regard, avec une expression grave et sincère sur le visage. La reine ne savait plus à quoi s'en tenir. Était-on en train de lui monter un canular ? Elle se le demandait. Est-ce que je l'appelle ? Répéta Sophie. Vous verrez, vous l'aimerez beaucoup. La reine prit une profonde inspiration. Elle était contente que personne, en dehors de sa fidèle mari, ne fût là pour voir ce qui se passait.
Très bien, appelle donc ton géant. Non, attends un instant. Marie ! Reprenez vos esprits et donnez-moi ma robe de chambre et mes pantoufles.
La servante fit ce qu'elle demandait. La reine alors se leva, puis passa une robe de chambre rose pâle et chaussa une paire de pantoufles.
Tu peux l'appeler à présent,
dit la reine. Aussitôt, Sophie se retourna vers le jardin et se mit à crier. BGG ! Sa Majesté la reine voudrait vous voir ! La reine traversa la pièce et s'approcha de Sophie.
Descendons de ce rebord, tu risques de tomber à tout moment.
Sophie sauta à terre et resta debout à côté de la reine. Toutes deux faisaient face à la fenêtre ouverte. Marie, la servante, se tenait derrière elle, les mains sur les hanches dans une attitude de fermeté, et avec l'air de dire « Je ne veux rien avoir à faire dans ce désastre !»«
Je ne vois aucun géant !»«
Oh, juste un instant, s'il vous plaît !»« Est-ce que je la mets dehors maintenant ?» demanda la servante.
« Emmenez-la plutôt au rez-de-chaussée et donnez-lui un petit déjeuner !»
répliqua la reine. Au même moment, il y eut un bruissement dans les arbustes près du lac. Le BGG arriva. Avec ses 7 mètres, sa cape noire qu'il portait avec l'élégance d'un gentleman et sa longue trompette à la main, il traversa d'un pas noble les pelouses du jardin et s'avança vers la fenêtre. La servante poussa un hurlement. Ah ! La reine eut une réaction de stupeur. Sophie adressa un signe de la main au géant. Le BGG prit son temps, s'approchant de la reine avec dignité. Lorsqu'il fut arrivé près de la fenêtre derrière laquelle se tenaient les 2 femmes et la petite fille, il s'arrêta et s'inclina avec grâce. Sa tête, lorsqu'il se redressa, se trouva exactement au niveau de la fenêtre royale.
« Votre majestueuse, je suis votre très humble serveur. »
Puis il s'inclina de nouveau. Pour quelqu'un qui n'avait encore jamais rencontré un géant dans sa vie, la reine conserva un flegme impressionnant.
« Nous sommes très heureuses de faire votre connaissance, »
dit-elle. En bas, un jardinier traversait la pelouse en poussant une brouette. Sur sa gauche, il aperçut les jambes du BGG. Son regard alors monta lentement le long de l'immense silhouette. Ses mains se crispèrent sur les brancards de la brouette. Il chancela, il tituba, enfin il tomba à la renverse, proprement évanoui. Personne, cependant, ne lui prêta attention.
« Oh, majestueuse ! Ô reine ! Ô monarchesse, ô souveraine en or, ô cheftaine d'État, ô empresse, ô sultane, je suis venu ici avec ma jeune amie Sophie pour vous porter... »
Le BGG hésita, cherchant le mot qui convenait.
« Pour me porter quoi ? »
demanda la reine.
« pour vous porter ma assistance,
reprit le BGG, le visage rayonnant. La reine sembla déconcertée.
Il parle d'une manière un peu drôle parfois, Majesté, expliqua Sophie. C'est parce qu'il n'est jamais allé à l'école.
Eh bien, il faut l'y envoyer. Nous avons quelques excellentes écoles dans ce pays.
J'ai des grands secrets à vous dire, votre majestueuse,
annonça le BGG.
Je serais enchantée de les entendre, mais pas en robe de chambre.
Désirez-vous vous habiller, madame ? Demanda la servante.
Avez-vous pris votre petit déjeuner ?
Interrogea la reine en s'adressant au géant et à Sophie.
Oh ! Est-ce qu'on pourrait en avoir un ? S'exclama Sophie. Oh, s'il vous plaît, je n'ai rien mangé depuis hier.
J'allais prendre le mien, mais Marie l'a laissé échapper.
La servante avala sa salive.
J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à manger dans le palais.
Poursuivit la reine à l'adresse du BGG.
Peut-être accepterez-vous de vous joindre à moi en compagnie de votre jeune ami ?
Est-ce que nous allons manger du répugnable schnocombre ?
S'inquiéta le BGG.
Du quoi ?
Demanda la reine.
Du schnocombre puant,
répéta le BGG.
De quoi parle-t-il ?
S'étonna la reine.
Voilà un mot aux consonances fort vulgaires. Marie !
Dit-elle en se tournant vers sa servante.
Demandez donc que l'on fasse servir un petit déjeuner pour trois dans... Je pense qu'il vaudrait mieux choisir la salle de bal. C'est là que le plafond est le plus haut. J'ai bien peur que vous n'ayez à franchir les portes à quatre pattes,
poursuivit la reine en s'adressant au BGG.
Je vais vous envoyer quelqu'un pour vous montrer le chemin.
Le BGG leva la main et prit Sophie sur la fenêtre.
Nous allons laisser sa majestueuse s'habiller.
Non, je vais garder la petite fille avec moi. Il faudra trouver quelque chose à lui mettre sur le dos. Elle ne va tout de même pas prendre son petit déjeuner en chemise de nuit.
Le BGG reposa donc Sophie dans la chambre. « Est-ce qu'il serait possible d'avoir des saucisses ?» demanda Sophie. « Et du bacon et des œufs sur le plat ?»«
Je pense qu'il doit y avoir moyen de rassembler tout cela.
»« Attendez donc d'avoir goûté à ça, » dit Sophie au BGG. « Vous verrez, à partir de maintenant, c'est fini les schnocombres. » Pendant le petit déjeuner, Sophie raconta à la reine et dans les moindres détails son voyage au pays des géants. La souveraine l'avait écouté l'air épouvanté. Et lorsqu'enfin la fillette eut terminé son récit, la reine leva les yeux vers le BGG et lui dit
« Votre histoire me semble tout à fait vraie. Que l'on convoque immédiatement le chef d'état-major de l'armée de terre et celui des forces aériennes !»
Le chef d'état-major de l'armée de terre et son collègue de l'aviation se tenaient au garde-à-vous devant la table à laquelle la reine avait pris son petit déjeuner. La reine ne mit pas plus de 5 minutes à expliquer la situation à ses chefs militaires.
« Il est 10 heures. Dans 8 heures maintenant, ces 9 brutes assoiffées de sang s'en iront galoper je ne sais où pour y dévorer 2 douzaines de malheureux innocents. Il faut les arrêter. Nous devons agir vite. Mais il faut les ramener vivants. »
reprit la reine.
« Mais comment ?»
demandèrent en même temps les 2 chefs militaires.
« Ils font tous 15 mètres de haut. Ils nous balayeraient comme un jeu de quilles. Attendez !»
s'écria le BGG.
« Reine des quatre fers, reine des cafetières, j'ai la réponse du berger à la bergère. »«
Écoutons-le, »
dit la reine. Le BGG pencha la tête vers les 2 militaires et, s'adressant au chef de l'aviation, il lui dit
« Vous avez des hernies gros pères, n'est-ce pas ? Mais il devient grossier !»«
Non, il veut dire des hélicoptères, » rectifia Sophie.
« Et pourquoi ne le dit-il pas ? Bien sûr que nous avons des hélicoptères !»«
Des bigrement gros hernies gros pères ?
De très gros !» Mais aucun hélicoptère n'est assez grand pour contenir un de ces géants.
Pas la peine de le mettre dedans. Il suffit de l'accrocher sous le ventre de votre hernie gros père et de le porter comme une portille.
Comme une quoi ?
Comme une torpille, précisa Sophie.
Pourriez-vous réaliser cela, général ?
Interrogea la reine.
Je pense que oui,
répondit le militaire comme à contre-cœur.
Alors au travail ! Vous aurez besoin de 9 hélicoptères, un pour chaque géant.
Où se trouve-t-il exactement ?
Demanda au BGG le chef de l'aviation.
Je suppose que vous pourriez localiser l'endroit sur une carte.
Localiser ? Une carte ? J'ai jamais entendu ces mots-là. Est-ce que cet homme de l'air est en train de me raconter des badivernages ?
BGG, pourriez-vous nous dire où se trouve à peu près le pays des géants ?
Non, majestueuse, j'avais de l'ami.
C'est absurde !
S'écria le chef de l'armée de terre.
Tout à fait ridicule !
Renchérit le chef de l'aviation.
Il ne faut pas abandonner si vite. Au premier minuscule petit obstacle, vous voilà tout déconfituré.
Le chef de l'armée de terre, pas plus que le chef de l'aviation, n'avait l'habitude d'être insulté. Son visage se mit à enfler sous l'effet de la fureur et ses joues se gonflèrent jusqu'à ressembler à deux grosses tomates bien mûres.
Majesté, nous sommes en train de parler avec un fou. Je ne veux plus rien avoir à faire dans cette ridicule opération.
La reine, habituée aux colères de ses hauts fonctionnaires, ignora complètement son intervention.
BGG, voudriez-vous expliquer à ces deux lourdeaux ce qu'il convient de faire exactement ?
Avec plaisir, majestueuse. Et maintenant, écoutez-moi bien, vous, les deux embeautés.
Les deux chefs tiquèrent, mais ne bronchèrent pas.
Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve le pays des géants, mais je sais y aller. J'en pars et j'y reviens chaque nuit pour aller souffler mes rêves dans les chambres des mouflets. Je connais très bien le chemin. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est ceci. Faites envoyer 9 de vos gros hernigropères dans les airs et qu'ils me suivent pendant que je galope là-bas.
Combien de temps durera le voyage ?
Si nous partons maintenant, nous arriverons juste au moment où les géants piquent leurs roupillons.
Parfait !
Dit la reine. Puis, se tournant vers les deux chefs de guerre, elle ajouta :
Préparez-vous à partir immédiatement !
Tout cela est très bien, Majesté, mais que ferons-nous de ces canailles lorsque nous les aurons ramenées ?
Demanda le chef de l'armée de terre, passablement vexé par tout ce qui venait de se passer.
Ne vous en faites pas pour cela ! Nous nous en occuperons ! Et maintenant, dépêchez-vous, il faut partir !
Si votre majesté y consent, dit Sophie, je voudrais bien faire le voyage avec le BGG pour lui tenir compagnie.
Et où te mettras-tu ?
Dans son oreille. Montrez-leur, BGG.
Le BGG descendit de sa grande chaise, prit Sophie entre le pouce et l'index, fit pivoter son immense oreille droite jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol, puis y déposa doucement la fillette. Le chef d'état-major de l'armée de terre et son collègue de l'aviation regardèrent se dérouler l'opération avec des yeux ébahis. La reine, quant à elle, se contenta de sourire.
Vous êtes un géant plutôt merveilleux.
Majestueuse, j'ai quelque chose de très spécial à vous demander.
De quoi s'agit-il ?
Est-ce que je pourrais rapporter dans l'hernigropère ma collection de rêves ? J'ai mis des années et des années à les rassembler et je ne voudrais pas les perdre.
Mais bien entendu ! Et maintenant, je vous souhaite bon voyage !
Le BGG avait fait des milliers de voyages entre le pays des géants et d'autres contrées, mais jamais encore il n'avait été accompagné dans sa course par 9 hélicoptères vrombissant au-dessus de sa tête. Il n'avait non plus jamais voyagé en plein jour, n'ayant jamais osé prendre ce risque. Mais cette fois, c'était différent. Il le faisait pour la reine d'Angleterre elle-même et il n'avait plus peur de personne. Tandis qu'il traversait les îles britanniques au triple galop, suivi par les hélicoptères qui rugissaient au-dessus de lui, les habitants, stupéfaits, le regardaient passer en se demandant bien ce qui leur arrivait. Ils n'avaient encore jamais rien vu de semblable et sans doute ne le reverraient-ils plus jamais. De temps en temps, les pilotes des hélicoptères apercevaient une petite fille portant des lunettes qui se tenait accroupie dans l'oreille droite du géant en leur faisant des signes de la main. Et chaque fois, ils répondaient en agitant la main à leur tour. Les pilotes étaient émerveillés par la vitesse du géant et par l'aisance avec laquelle il traversait d'un bond de larges fleuves ou sautait par-dessus de hautes maisons. Mais ils n'avaient encore rien vu.
« Attention, tiens-toi bien !»
dit le BGG à Sophie.
« On va partir comme un obus !»
Le BGG passa alors sa fameuse vitesse supérieure et s'élança à toute allure comme s'il avait eu des ressorts dans les jambes et des fusées dans les orteils. Il filait à la surface de la terre, comme porté par une force magique qui lui faisait avaler les distances, ses pieds touchant à peine le sol. Cette fois encore, Sophie dut se recroqueviller dans un repli de l'oreille pour éviter d'être emportée par le vent. « Le géant s'est arrêté !» annonça bientôt le jeune pilote. « Il nous fait signe d'atterrir !» Les pilotes réduisirent les gaz et les 9 hélicoptères se posèrent sans encombre sur la vaste terre jaunâtre et désolée. Puis, de chacun des appareils, on abaissa une rampe d'accès qui permit de descendre 9 jeeps au sol. 6 soldats, équipés d'une quantité considérable de grosses cordes et de lourdes chaînes, occupaient chacune des jeeps.
« Je ne vois pas de géants !»
remarqua le chef de l'armée de terre.
« Ils sont là-bas, hors de vue. Si vous vous approchiez d'eux en faisant tout un tintouintamarre avec vos hernigropères, tous les géants se réveilleraient et hop, adieu l'oiseau !»«
Vous voulez qu'on aille là-bas en jeep ?»
demanda le chef de l'armée de terre.
« Oui, mais il faut faire silence motus. Pas de bruit de moteur, pas de cri, pas de remue-ménage, pas de chat qui varie. »
Le BGG se mit alors en chemin, Sophie toujours assise dans son oreille, et avança en petite foulée suivie par les 9 jeeps. Et soudain, tout le monde entendit un terrible grondement. Le visage du chef de l'armée de terre devint verdâtre.
Ce sont des coups de feu! Il y a une bataille qui fait rage quelque part là-bas! Demi-tour tout le monde! Filons d'ici!
Fougnaise! Ce ne sont pas des coups de feu!
Bien sûr que si!
S'exclama le chef de l'armée de terre.
Je suis un soldat et je sais reconnaître un coup de feu quand j'en entends un! Demi-tour!
Ce ne sont que les géants qui ronflent en dormant. Je suis un géant moi-même et je sais reconnaître un ronflement de géant quand j'en entends un.
Vous êtes sûr?
Absolument certain.
Bon, mais avançons prudemment,
ordonna le chef de l'armée de terre. Toute la troupe se remit alors en mouvement. Et soudain, les géants furent en vue. Même à bonne distance, le spectacle qu'ils offraient suffit à inspirer de la crainte aux soldats. Mais lorsqu'ils se furent approchés d'eux et qu'ils virent vraiment les 9 monstres, la terreur les fit transpirer. Les épouvantables brutes, à demi nus, avec leurs 15 mètres chacune, exposaient leur laideur repoussante, vautrés sur le sol dans des positions grotesques, profondément endormis et ronflant avec un bruit d'enfer qu'on aurait pu prendre en effet pour le feu roulant d'une bataille. Le BGG leva une main. Les jeeps s'arrêtèrent et les soldats en sortirent.
« Que se passerait-il si l'un d'eux se réveillait ?»
murmura le chef de l'armée de terre, dont les genoux s'entrechoquaient sous l'effet de la peur.
« Si l'un d'eux se réveille, il vous aura avalé avant que vous n'ayez eu le temps de dire plouf !»
répondit le BGG avec un sourire jovial.
« Et moi, c'est le seul qui ne sera pas avalé parce que les géants ne mangent pas les autres géants. Sophie et moi, nous sommes les seuls en sécurité parce que je la cacherai si les choses vont mal. »
Le chef de l'armée de terre fit plusieurs pas en arrière, imité par le chef de l'aviation. Ils remontèrent très vite dans leur jeep, prêts à s'enfuir en cas de nécessité.
« En avant, soldats !»
dit le chef de l'armée de terre.
« En avant, et faites bravement votre devoir !»
Les soldats s'avancèrent avec précaution. Munis de leurs cordes et de leurs chaînes, ils tremblaient de tout leur corps et personne n'osait dire un mot. Le BGG, en compagnie de Sophie qui se tenait à présent dans la paume de sa main, restait à proximité, observant le déroulement de l'opération. Pour rendre justice aux soldats, il faut dire qu'ils se montrèrent très courageux. 6 hommes, bien entraînés et efficaces, s'occupaient de chaque géant. Et 10 minutes plus tard, 8 des géants avaient été ficelés comme des saucissons et continuaient de ronfler béatement sans s'être aperçus de rien. Mais le 9e, qui se trouvait être la valeur de chair fraîche, causa bien du souci aux soldats. Il se réveilla, poussa un grognement affreux et bondit sur ses pieds. Le combat fut rude, mais le courage du BGG et l'astuce de Sophie eurent raison de lui. Il finit par se rendre. Le chef d'état-major de l'armée de terre et son collègue de l'aviation reparurent au volant de leur jeep.
« Sa Majesté sera contente de moi !»
déclara le chef de l'armée de terre.
« J'obtiendrai probablement une décoration. Et maintenant, que fait-on ?»«
Maintenant, on va tous dans ma caverne pour déménager mes bocaux de rêve !»
dit le BGG.
« On ne va pas perdre du temps pour ces sottises !»
protesta le militaire. C'est un ordre de la reine, rappela Sophie, qui avait retrouvé sa place dans la main du BGG. Et les 9 jeeps se dirigèrent donc vers la caverne où commença l'opération du déménagement des rêves. En tout, il y avait 50 000 bocaux qu'il fallut charger dans les voitures, ce qui représentait plus de 5 000 bocaux pour chaque jeep. Il fallut 1 heure pour achever le travail. Tandis que les soldats chargeaient les rêves, Sophie et le BGG disparurent derrière les montagnes pour une mystérieuse destination. Lorsqu'ils revinrent, le BGG portait sur l'épaule un sac de la taille d'une petite maison.
« Qu'est-ce que vous transportez là-dedans ? »
exigea de savoir le chef de l'armée de terre.
« C'est la curiosité qui fait prendre le rat au piège. »
répliqua le BGG, puis il tourna le dos à l'imbécile. Lorsqu'il se fut assuré que tous ses précieux rêves étaient bien rangés dans les jeeps, le BGG dit
« Maintenant, nous allons retourner aux Zernigropères et emporter les affreux géants. »
Les jeeps revinrent alors vers les hélicoptères à l'intérieur desquels les 50 000 rêves furent soigneusement déposés. Les soldats remontèrent à bord, mais Sophie et le BGG restèrent au sol et retournèrent auprès des 9 géants ligotés suivis par les hélicoptères. C'était un spectacle assez réjouissant de voir ces 9 grosses machines volantes rester suspendues dans les airs au-dessus des géants ligotés. Il fut encore plus réjouissant de voir les monstres s'éveiller en entendant le terrifiant vacarme des moteurs au-dessus de leur tête. Mais le comble de la joie, ce fut le spectacle de ces 9 brutes hideuses qui se tordaient et se trémoussaient sur le sol comme des serpents gigantesques en essayant de se libérer de leurs cordes et de leurs chaînes.
Je suis entortillé.
Rugit l'avaleur de chair fraîche.
Je suis tire-bouchonné.
S'écria le mâcheur d'enfants.
Je suis tarabistourné.
Brailla le croqueur d'os.
Je suis tortillonné.
Meugla l'étouffe chrétien.
Je suis sassoir-griffé.
Vociféra l'empiffreur de viande.
Je suis épaugraillé.
S'époumona l'écrabouilleur de donzelles.
Je suis déchiqueté.
Mugit le gobeur de gésier.
Je suis délacéré.
S'égosilla le buveur de sang.
Je suis dédartibulé.
Glapit le garçon bouché. Chacun des 9 hélicoptères gros porteurs choisit un géant et se dirigea droit sur lui. À l'avant et à l'arrière de chacun des appareils, on descendit des filins d'acier munis à leur extrémité de crochets auxquels le BGG attacha soigneusement les chaînes des géants, un crochet étant passé à hauteur des pieds et un autre à hauteur des mains. Puis, très lentement, on remonta les filins à l'aide de treuils, en prenant bien soin que le corps de chacun des géants restât parallèle au sol. Les monstres se mirent à rugir et à vociférer, mais ils ne purent rien faire d'autre. Alors, le BGG, en compagnie de Sophie, toujours confortablement installée dans son oreille, s'élança au galop en direction de l'Angleterre. Les hélicoptères se regroupèrent derrière lui et le suivirent. Ces 9 hélicoptères volant dans le ciel en emportant chacun un géant de 15 mètres ficelé comme un saucisson offraient un spectacle saisissant. Les géants eux-mêmes devaient sans doute trouver l'expérience intéressante. Pendant tout le voyage, ils ne cessèrent jamais de hurler, mais leurs cris étaient couverts par le bruit des moteurs. Lorsque le jour commença de tomber, on alluma sous les hélicoptères de puissants projecteurs dont on dirigea le faisceau sur le géant qui courait pour ne pas le perdre de vue. L'escadrille traversa la nuit sans encombre et arriva en Angleterre à l'heure où l'aube pointait. Tandis que l'on s'était occupé de capturer les géants, un impressionnant remue-ménage avait eu lieu en Angleterre. On y avait mobilisé tous les terrassiers et toutes les pelleteuses du pays pour creuser l'immense trou dans lequel les géants allaient être gardés à jamais prisonniers. 10 000 hommes et 10 000 machines avaient travaillé sans relâche tout au long de la nuit, éclairés par de puissants projecteurs à arc, et la tâche gigantesque fut achevée juste à temps. Le trou lui-même était 2 fois plus grand qu'un terrain de football et profond de 150 mètres. Les parois en étaient parfaitement verticales et les ingénieurs avaient calculé qu'il serait rigoureusement impossible à un géant de s'en échapper une fois qu'on l'y aurait mis. Même si les 9 géants montaient sur les épaules les uns des autres, le géant le plus élevé se trouverait à 15 mètres au-dessous de la surface du trou. Les 9 hélicoptères gros porteurs survolèrent l'immense fosse au fond de laquelle les géants furent descendus un par un. Par terre, au bord du trou, était posé le gros sac que le BGG avait rapporté du pays des géants.
« Qu'y a-t-il à l'intérieur ?»
lui demanda la reine. Le BGG fourra alors la main dans le sac et en retira un objet de la taille d'un homme et dont la surface était recouverte de rayures noires et blanches.
« Ce sont des chenocombres. Voici le répugnable chenocombre, majestueuse. Et c'est ce que nous donnerons à manger à ces horribles géants, désormais.
Puis-je y goûter ?»
demanda la reine.
« Oh non, majestueuse, ne faites pas ça. Le chenocombre a un goût exécrasseux et ignominable. »
Il lança alors le chenocombre au géant prisonnier de la fosse.
« Voici votre souper. Mâchonnez-moi ça un peu pour voir.
» Puis il prit un autre chenocombre dans le sac et le leur jeta également, tandis que montaient du fond du trou les hurlements et les jurons que poussaient les 9 monstres.
« Ça leur fera les pieds, les mains et la tête.
« Et que leur donnerons-nous à manger quand il n'y aura plus de chenocombres ?»
lui demanda la reine.
« Il y en aura toujours, majestueuse, car j'ai également apporté dans ce sac tout un tas de pieds de chenocombres que je vais confier, avec votre permission, au jardinier royal pour qu'il les plante. Ainsi, nous aurons toujours largement assez du répugnable légume pour donner à manger à ces brutes sanguinaires. »
« Vous êtes décidément très astucieux !»
remarqua la reine.
« Sans doute votre éducation laisse-t-elle à désirer, mais pour l'intelligence, je vois que vous n'avez de comptes à rendre à personne !»
De tous les pays qui avaient été un jour ou l'autre visités par les épouvantables géants mangeurs d'hommes, parvinrent au BGG et à Sophie des télégrammes de félicitations et de remerciements. Des rois, des présidents, des premiers ministres et d'autres chefs d'État prodiguèrent compliments et marques de gratitude à l'énorme géant et à la petite fille, et leur envoyèrent également toutes sortes de médailles et de cadeaux. Le gouvernement indien fit notamment parvenir au BGG un magnifique éléphant, comblant ainsi un de ses souhaits les plus chers. D'une manière générale, le monde entier leur exprima une reconnaissance sans bornes. La reine d'Angleterre elle-même ordonna que l'on construise immédiatement près de son propre château, à Windsor Great Park, une maison spéciale, au plafond d'une hauteur impressionnante et aux portes immenses afin que le BGG puisse avoir un foyer. Juste à côté, on éleva une jolie petite maison pour Sophie. Dans la maison du BGG, une pièce spéciale pour abriter ses rêves avait été aménagée, avec des centaines d'étagères sur lesquelles il pouvait ranger ses bocaux bien-aimés. Par surcroît, on lui décerna le titre de souffleur de rêve royal. On lui donna également la permission d'aller partout en Angleterre, quand bon lui semblait, pour souffler la nuit ses merveilleuses bouilles de gnome dans les chambres des enfants endormis. Et il reçut une avalanche de lettres écrites par des enfants qui lui demandaient de venir leur rendre visite.